Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, soyez les bienvenus sur Europe 1 pour Clap, votre pause cinéma du week-end. Comme dans Le Cinquième Élément, le temps est sans importance, seule la vie est importante. Et bien dans Clap, c'est à peu près la même chose, à l'exception près que c'est le cinéma qui est important. Alors cette semaine, à l'occasion de la sortie d'Arthur, La Malédiction, produit par Luc Besson, on se replongera dans l'immense carrière de Luc Besson. Olivier Barou viendra nous parler de son nouveau film en tant que réalisateur, Menteur, dans lequel il dirige Tarek Boudali. Et puis on évoquera ensemble les films de son été, un certain Everest, pour tenter de se rafraîchir en pleine canicule. Alors attention, nous avons la chance ce week-end qu'il soit là en chair et en os. Quel bonheur, il a pris l'avion depuis Los Angeles pour faire sa chronique avec nous. Didier Allouche est là. Bonjour Didier.
Salut Laurie, salut à tous.
Et on parlera de quoi cette semaine ?
On parlera de l'automne.
Ouais, prêt, parfait, ça tombe bien, nous sommes en été. Enfin, en dernière partie d'émission, nous vous conseillerons sur les films à voir au cinéma et comme Victor Bonnefoy est souffrant, c'est Franck Vallière tout seul qui a vu tous les films.
Il y a Didier qui est là.
Oui, c'est vrai, il en a vu aussi.
Moi, je suis en plein été, on vient de me parler de l'automne, je suis pas très content. Je sais pas si je vais pas rentrer chez moi.
Il sait plus où il en est, on l'a bousculé là. Bon, il y a quand même un petit coup de cœur, quelque chose qui a retenu votre attention cette semaine.
On va faire court L'Équipier, un Trainspotting dans le milieu du cyclisme pro.
Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Ah mais moi j'ai pas envie de couper hein, c'est ça le problème. It's Only Mystery, bande originale du film Subway de Luc Besson, parce que oui, cette semaine, à l'occasion de la sortie d'Arthur, La Malédiction, produit par Luc Besson, inspiré de son succès Arthur et les Minimoys, on se replonge dans la longue carrière de cet immense réalisateur, producteur et scénariste français que vous connaissez tous. Alors, Luc Besson, on est tous quand même plus ou moins fans. Il a quand même une carrière de dingue.
Évidemment.
Vous avez repassé la musique de Subway, quel grand film Subway.
On va en parler dans quelques instants. Luc Besson, c'est 39 ans de carrière, une vingtaine de longs métrages en tant que réalisateur et plus d'une centaine de films produits. Il a fait tourner, il a révélé de grands acteurs français, hollywoodiens, il a exploré tous les genres, toutes les techniques. On va commencer avec ce classique, si je vous fais écouter ces notes de musique.
Alors il y a peut-être une ambiguïté, on pourrait croire que c'est Atlantis ou Le Grand Bleu, mais Le Grand Bleu, voilà.
Okay, vous me refaites là ?
D'accord.
Voilà. Bon, vous avez bien fait de faire critique cinéma en fait. Chanteur, c'était pas gagné. C'est évidemment la musique grandiose du Grand Bleu, signée de son compositeur fétiche avec lequel il est fâché actuellement, Éric Serra. Alors comment ne pas commencer effectivement cette chronique avec ce film de 1988 dans lequel on retrouve Jean Reno, cette histoire de rivalité entre deux fans de plongée et cette romance devenue culte.
C'est de l'alcool ? C'est interdit à cette profondeur.
Hey, si t'as encore beaucoup de choses à nous interdire, tu nous fais une liste, comme ça on la collera sur le hublot, ok ?
N'en blaguez pas les gars, c'est très dangereux l'alcool avec cette pression.
Vas-y, suce ton doigt. Ah oui, avec ça on va voir des sirènes partout.
Bon, Le Grand Bleu c'est culte, voilà, que dire de plus ? Faut l'avoir vu.
Ouais, puis il faut avoir vécu le phénomène aussi. À l'époque, c'était plus qu'un film, c'était un véritable événement, un véritable phénomène. Toutes les générations étaient touchées. Tout le monde avait vu Le Grand Bleu au moins une fois, et j'ai envie de dire au moins deux ou trois fois, en version même 3 heures. Vous vous souvenez de la pub pour la version longue ? N'y allez pas, ça dure 3 heures. Il y avait écrit sur la fiche.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, exactement. Dans un autre genre, on découvre Anne Parillo, César de la meilleure actrice, dans Nikita, sorti en 1990. Un thriller intense où elle échappe à la prison à perpétuité en étant recrutée par les services secrets. C'est le premier film d'action que Luc Besson réalise et il sera nommé pour ce film 9 fois au César.
C'est par où la sortie ?
Trois devant.
C'est tous ces connards ?
Des employés. Personne ne bouge, tout va bien.
Mon cul, oui, tout va mal.
Et 4 ans après Nikita, Luc Besson revient dans le genre de l'action avec Léon, film culte dans lequel on retrouve une jeune actrice.
Ça une quelque chose Nathalie Portman, voilà. Qui a fait une petite carrière après.
12 ans à l'époque, en duo avec Jean Reno, elle est absolument dingue, elle crève l'écran dans ce film, avec cette réplique qui nous crève le cœur et qui résonne encore aujourd'hui assez fortement.
La vie, c'est comme ça tout le temps, ou seulement quand on est petit?
C'est comme ça tout le temps.
Et ben voilà, c'est... C'est gay.
Avec cette partition musicale. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses, Franck Vallière.
Quelles choses sérieuses ?
Subway.
Subway, c'est...
C'est votre film préféré de Luc Besson.
Bah oui, mais alors, je pense que c'est typiquement générationnel. C'est-à-dire que quand on a vu Subway quand j'habitais moi en province, jeune adolescent, on s'est pris un truc, un monument dans la tête. On imaginait que le métro parisien pouvait être comme ça, même si j'imagine qu'il s'en passe sans doute des pires. L'univers que proposait Besson et qui allait le transformer comme un réalisateur dont on attendait des films, ce qui est rarement le cas de nos jours. On attendait les films de Luc Besson. Depuis Subway, on attend les films de Luc Besson pendant la suite des années 80, comme on attendait des films de John McTiernan ou d'autres réalisateurs. C'est un univers flamboyant et accessoirement, le casting, il y a tout le cinéma français quand on y repense. Quoi.
Ah oui, Adjani, Christophe Lambert, Michel Galabru, Richard Bourringer, Jean-Hugues Anglade.
Oui, et puis c'était une mise en scène absolument
Jean-Pierre
implacable.
Bacry.
Implacable au niveau de l'action, il définissait son genre, il avait déjà commencé à faire ça dans son premier film, Le Dernier Combat, au début des années 80, et puis Subway, c'est vraiment la base de tout son cinéma après, et c'est assez impressionnant.
13 nominations au César et ses répliques cultes.
Monsieur le préfet, votre dîner est nul, votre baraque est nulle, et je vous emmerde tous.
Police, menottes, présent.
Tu nous gonfles avec tes tagada.
Vous le connaissez par cœur, on a compris. Évidemment, il y a eu aussi le choc visuel à l'époque, hein, 1997, cinquième élément. César du meilleur réalisateur pour Luc Besson. S'il vous plaît, au casting quand même, Bruce Willis. Les débuts, la découverte de Mila Jovovich. Ou encore Gary Oldman avec toujours une excellente partition musicale signée Éric Serra. On pourrait en parler pendant des heures de Luc Besson. Il a une carrière aussi de producteur absolument géniale. Des films comme Taxi, Le Transporteur, toute cette époque, ses grands films d'action. Ne le dit à personne aussi. Et quand même, mon chouchou, Taken.
J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai.
Ah, franchement,
ouais,
cette scène est dingue.
D'accord.
Bon, et puis on ne pouvait pas non plus passer à côté de sa fameuse trilogie Arthur et les Minimoys, un vrai conte fantastique, une histoire d'aventure, de famille, d'amour aussi. Il a adapté ses films à partir des livres qu'il a lui-même créés avec Céline Garcia, des livres pour enfants, des livres pour parents aussi, il y a toujours une double grille de lecture. Ce qui nous amène vers l'OVNI de la semaine, rien que son annonce le vendredi 13 mai dernier avait surpris tout le monde, c'est bien sûr Arthur, la malédiction. Alors c'est quoi Arthur, la malédiction ? C'est un film d'horreur où des jeunes fans d'Arthur, les Minimoys, se retrouvent et explorent la véritable maison d'Arthur, complètement laissée à l'abandon évidemment. Mais très vite, des événements étranges se passent et ce qui devait être un rêve va vite devenir un cauchemar.
Je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand.
Qu'est-ce que tu veux faire ?
Je veux être un Minimoys.
On a retrouvé la maison d'Arthur.
C'est quoi ça ?
Le gardien, il a dit, c'était dangereux.
Toutes les minutes, tu klaxonnes trois fois.
Il y a un souci. On reste pas là.
De rejoindre le monde des Minimoys, c'est le moment. La lune est pleine. On va s'occuper de toi.
Alors, pour aborder ce film OVNI, j'ai à mes côtés le réalisateur Barthélémy Grossman et Talia Besson, la comédienne principale du film. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je disais un film OVNI, peut-être je vous laisse la parole en premier, Barthélémy, mais comment est-ce que vous êtes retrouvé aux commandes de ce projet ?
Assez simplement, c'est Luc qui m'a appelé et qui a eu l'idée de ce film et qui m'a demandé si ça m'intéressait de le réaliser.
Vous étiez un vrai fan des Minimoys.
Moi je suis un enfant, j'ai toujours fait en sorte de rester un enfant, c'est un peu mon combat en tant qu'artiste, ça veut dire que j'ai pas envie de m'homogénéiser et de rentrer dans le troupeau, donc j'ai toujours été un peu le mouton noir et donc ça m'a plu évidemment, c'est ça Arthur et les Minimoys pour moi, c'est le petit garçon fermé dans son monde et c'est ça qui m'a plu.
Talia, c'est votre première expérience au cinéma, comment vous l'avez vécu ?
Alors c'était incroyable, c'était vraiment je pense la meilleure expérience que j'aurais pu avoir, merci Bart. On a créé une famille, vraiment il y avait tellement d'amour, tout le monde était heureux d'être là, c'était tout ce que j'aurais pu demander et plus.
Tous vos comédiens étaient très impliqués,
tout
ça
le monde
s'est
était
bien
très
passé.
Impliqué. Ouais, on était confinés pendant le confinment. Donc déjà ça crée quelque chose de spécial, c'est à dire que c'est quand tout le monde a arrêté de tourner des films, c'est là où Luc il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux tourner, et je lui ai dit mais comment, il y a le confinement, et il m'a dit mais on va se confiner et on va tourner un film.
Talia, vous connaissez bien Luc Besson.
Tu l'as jamais rencontré je crois, non?
C'est qui?
On peut le dire, c'est votre père.
Ah.
Il est comment alors Luc Besson, où est-ce qu'il puise toutes ces idées?
Alors, il est très créatif. Il est, je pense un peu comme Bart, c'est des, ils sont toujours enfants. Ils vivent dans leur propre monde. Donc voilà, c'est toujours des idées. Ils veulent, les deux d'ailleurs, toujours créer quelque chose et parler cinéma, parler art.
Barthélémy, pour terminer, quel était l'enjeu principal sur ce film ?
L'enjeu principal pour moi, c'était déjà de, quand on m'offre un cadeau, quand on m'invite sur un projet, c'est déjà que la personne qui m'a invité soit satisfaite du film. C'est de respecter la vision de l'auteur qui me propose un projet.
Ça, c'est réussi. Ouais. Luc Besson était content.
Et en fait, j'aimerais juste dire un truc sur Talia, parce que souvent, on parle de, oui, Talia, la fille de Luc Besson et tout ça.
Déjà, vous avez carte blanche pour la choisir.
Moi, j'ai carte blanche pour la choisir, c'est moi qui l'ai choisie. Et ce que je veux dire, c'est que Talia, elle a du talent. En fait, je pense que, pourquoi je ne trouvais pas mon actrice, parce que j'ai mis beaucoup de temps à la trouver, c'est parce que Talia, en fait, elle a été éduquée à l'américaine. C'est-à-dire que les 5 dernières années, elle les a vécues à Los Angeles. Et ce côté adolescent américaine, il y a une espèce de détermination, de sens du travail, de sérieux, qu'on ne retrouve pas forcément chez nous. On est dans le travail. Et ça, c'est très appréciable.
Américaine.
Exactement.
Très gentil.
Merci beaucoup à tous les deux. Alors Arthur, La Malédiction est en ce moment au cinéma. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est la fête du cinéma. Profitez-en pour découvrir des films. Profitez-en pour découvrir des films différents comme celui-ci. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Beaucoup.
Sans transition aucune, si ce n'est que lui, c'est loin d'être une malédiction, c'est une bénédiction, bien au contraire. Et il vient d'arriver tout droit de Los Angeles, il a à peine eu le temps de poser ses valises. C'est Didier Allouche, bonjour Didier.
Salut Laurie, c'est gentil, bénédiction.
Quel bonheur que vous soyez à Paris cette semaine.
Mais quel bonheur de vous voir.
Bon ben je vais vous laisser.
Mais c'est parce que Didier, d'habitude, on est à distance, c'est tellement frustrant. Mais c'est déjà tellement bien de vous avoir chaque semaine avec nous. Alors on vous écoute, quelles sont les news du côté d'Hollywood ?
Écoutez Laurie, puisque l'été est là, j'ai décidé de vous parler de l'automne. Alors que la saison des blockbusters bat son plein à Hollywood, que Tom Cruise a dépassé le mur du milliard de dollars de recettes avec son Top Gun Maverick, que les dinosaures de Jurassic World 3 dévorent tout sur leur passage et que les Minions devraient en faire autant ce week-end dans les salles américaines. Laissez-moi donc vous parler de ce qui nous attend à la rentrée sur les écrans, des écrans de toute taille en Amérique, puisque vous savez que ça sort un peu partout là-bas. L'automne, c'est la saison des prix, si importante pour Hollywood, la saison du coup des films plus ambitieux, plus artistiques si vous voulez, la saison des festivals aussi qui dès septembre annonce la couleur, Venise, Telluride, Toronto, tous les grands films qui vont se battre pour se partager les statuettes dorées y seront dévoilés et la liste donne très envie. Je commence avec celui qu'on attend un peu tous, c'est Babylone, le film de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, un film sur l'avènement du cinéma parlant à Hollywood et ça donne très envie. Il y a Blonde, le biopic de Marilyn Monroe par Andrew Dominik avec Ana de Armas dans le rôle principal. Timothée Chalamet qui rejoint son réalisateur de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino dans Bones and All. Les nouveaux films de Darren Aronofsky, Wes Anderson, Iñárritu, Florian Zeller, Ari Aster, Guillermo del Toro ou encore le film d'un petit jeune qui s'appelle Steven Spielberg, ça vous dit quelque chose peut-être ? Ça s'appelle The Fableman et il y racontera son enfance sans oublier les énormissimes machines que sont Black Panther 2, Wakanda Forever et bien sûr celui que nous attendons tous et pour lequel, Laurie, je sais que vous avez ressorti votre maquillage tout bleu et votre robe de Navi. Je veux bien entendu parler de la suite d'Avatar par James Cameron.
Enfin.
Avatar, la voix de l'eau. Bref, des tas de films à suivre et des tas d'histoires que j'aurai le plaisir de vous raconter live from Hollywood.
Et Barbie, ça sort quand ?
Barbie, avec ça Ryan sort plus tard, Gosling. Ça sort à Noël.
Parce qu'il y a les photos, premières sont images qui circulent qui sont quand même surréalistes.
Incroyable. Et puis en plus, tout le monde s'habille en Barbie maintenant. Ils ont tous créé les rollers, les trucs jaunes. Là. C'est devenu un phénomène.
Ne bougez pas, dans un instant, Olivier Barou sera à mes côtés pour vous parler de la comédie Menteur où il dirige Tarek Boudali.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Mais Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap. On continue avec notre invité du jour. Il est venu il y a quelques mois nous présenter Les Tuches et aujourd'hui il revient, il n'arrête pas en fait, il est sur tous les fronts. Il vient nous parler de Menteur. Merci Olivier Barraud d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Grosse actualité cette année.
Oui, bah oui, Les Tuches et puis Menteur et puis plein d'autres choses. Enfin oui, je fais mon métier en fait, tout simplement.
On va parler de tout alors.
Oui.
Et vous le faites bien d'ailleurs, votre métier. Alors, Menteur, vous dirigez Tarek Boudali dans le rôle d'un menteur compulsif. C'est une adaptation d'un film canadien du même nom, réalisé par Émilie Gaudreau. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a plu surtout dans cette histoire? Vous êtes menteur vous-même?
Non, alors pas du tout en plus. Non, mais c'est vrai, ça peut m'arriver de mitonner un peu quand on a un peu bu autour d'une table et raconter ou de grossir des histoires. Quoi.
Ouais, alors c'est que, ça, voilà, enjolivé.
Enjolivé, vous avez pêché un petit poisson méditerranéen et puis ça devient tout de suite un énorme poisson. Mais non, je suis pas très menteur. Mais en tout cas, non, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai lu le scénario québécois, j'ai trouvé ça franchement formidable et la mécanique implacable. Donc, Lagomont m'a dit, tu veux l'adapter? Ok, je vais essayer. 8 mois après, on a réussi à faire une belle adaptation. On a transformé les mensonges pour les rendre plus français. On a changé la fin, on a rajouté des personnages, rajouté des scènes pour faire notre propre vision de ce personnage, Jérôme Berada, qui est un menteur compulsif. Mais j'ai adoré la mécanique de ce film. J'aurais adoré avoir eu l'idée. Et je ne l'ai pas eu, donc...
C'est tout comme.
Non, ouais, en tout cas, je rends hommage vraiment aux scénaristes québécois qui ont vraiment, vraiment eu une super bonne idée. J'espère qu'ils ne seront pas déçus par ma vision des choses.
Alors faites-nous le fameux pitch. Vous allez le faire beaucoup mieux.
Jérôme Berada, la trentaine, qui travaille dans une usine de rénovation de yachts de luxe, voilà, située à Toulon. Et il a une vie parfaite, si ce n'est qu'il ment tout le temps. Il ment pour arriver en retard, il ment pour draguer, il ment pour...
Il s'en rend même plus compte.
Il s'en rend même plus compte. Et après, il mitonne, il raconte des histoires, il parle sur les autres, il raconte des mensonges sur chacun. Et un jour, il est convoqué par sa famille, ses amis. On lui dit, écoute, maintenant, c'est comme avec les mythomanes, comme avec une maladie. Hein, il faut que tu arrêtes de mentir comme ça parce que ça commence à faire du mal autour de toi. Il ne veut rien entendre, il ne réagit pas. Et là, la malédiction lui tombe dessus. Et tous les mensonges qu'il a racontés depuis qu'il ment prennent vie. Et c'est ça la mécanique du film.
Vous imaginez l'horreur, et là, la maladie de l'un.
Ça devient un cauchemar. Et c'est là que la comédie commence en fait.
Caroline, ça reste entre nous, mais je dois donner un rein à mon frère. Je vous trouve très agréable. Il y a un vrai feeling entre nous, non?
Non. J'ai rencontré la traductrice.
Ouais, et?
Elle est amoureuse de moi.
Tu peux pas continuer à mentir comme ça.
Je vois pas ce que tu veux dire.
Un jour, Jérôme, tu vas raconter le mensonge de trop.
Ah, c'est quoi ça?
T'as raconté combien de mythos? C'est dingue ça! Tu peux pas t'en empêcher, hein!
J'ai fait une radio ce matin. J'ai 3-1. Ça n'existe pas. J'ai regardé dans le règne animal, y a pas un putain de poisson, pas un putain d'oiseau qui a 3-1.
Alors ce personnage joué par Tarek, finalement, il a confiance en lui, il a confiance en ce qu'il dit en fait. Ouais. C'est un beau parleur, mais il est presque convaincu de son mensonge. C'est ça qu'il est touchant.
Il est convaincu et lorsqu'il n'est pas convaincu, il se prend comme excuse de pimenter la vie, en fait, de rajouter un peu de piment sur les choses un peu banales et puis de les rendre plus drôles, plus excitantes. Donc c'est sa manière de se défendre. Mais il ment, c'est un menteur.
Non. Ouais. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit « je pimente ma vie avec des histoires que j'ai vécues pas complètement ou presque un peu ».
Voilà, c'est
parfois,
ça.
Parfois pas du tout.
Pas du tout.
Je saupoudre ma vie de péripéties qui permettent à mes interlocuteurs d'avoir un point de vue différent sur moi. C'est aussi un manque de confiance en soi de mentir autant.
Complètement, c'est une sorte d'armure. Pour qu'on m'écoute, je vais mentir. Parce que si je ne mens pas, peut-être que mon propos va devenir banal et va tomber dans les limbes dans la conversation. Donc lui, il préfère rajouter tout de suite des mensonges pour qu'on s'intéresse à lui. Et ça, c'est
une protection.
Une protection. Et on va se rendre compte au fur et à mesure du film que ça vient de très très loin en fait.
Et oui, c'est ça aussi, c'est ce double degré de lecture qui est très touchant dans le film parce que derrière la comédie, derrière le mensonge, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même aussi cette notion de pourquoi est-ce qu'on devient mythomane ? Quelle est la frontière aussi entre la vraie maladie et puis aussi comment s'émanciper de ses parents, comment être à la hauteur de ce que nos parents projettent sur nous ?
Tout à fait, ça parle de tout ça.
Aussi, hein.
Ouais, ça parle de tout ça, le film parle de tout ça et ça parle aussi du mensonge positif, négatif. Voilà, on ne pourrait pas vivre dans une société où on ne ment pas. C'est impossible, on ne pourrait pas se dire la vérité en face en arrivant le matin. Putain, mais qu'est-ce que je t'aime pas, toi ? C'est impossible.
C'est un peu compliqué.
Ça serait un peu compliqué. Il y a eu un film de fait là-dessus par Ricky Gervais, justement, et qui était très intéressant à ce propos-là, où ça ne fonctionnait pas, la société ne pouvait pas fonctionner.
On sait ce que t'inventes sur nous, Jérôme.
J'invente rien.
T'as dit à tout le monde au bureau que je m'endormais, que j'étais narcoleptique, c'est hyper grave ça, Jérôme.
T'as pas été sélectionné par l'Agence Européenne Spatiale pour être cosmonaute.
T'as jamais été pris en stop par Miss Univers.
Pourquoi tu dis que ton frère est le type le plus malchanceux du monde?
C'est vrai ça? Pourquoi tu racontes à tout le monde que je suis un gros loser?
Non, j'ai jamais dit que t'étais un loser. J'ai dit que tout ce qui peut t'arriver de pire t'arrive. C'est pas pareil.
Non, bon. Mais surtout, c'est pas vrai, tout va bien, je galère pas, la vie est belle.
Bah, avoue quand même, tu galères un peu, non?
Alors, Olivier Barou, est-ce qu'il y a des bons mensonges?
Oui, des bons mensonges, bien sûr. Lorsque vous recevez une photo de votre meilleur ami qui vient d'accoucher, qui vous envoie une photo de son bébé, bon...
On l'a tous fait, ce mensonge.
Voilà, les bébés ne sont pas forcément très agréables à regarder lorsqu'ils viennent de naître, ça dépend, il y a des bébés magnifiques, il y en a d'autres, c'est vraiment dur. Et vous allez répondre, mais il est trop mignon, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et là, vous mentez, mais complètement.
Complètement. Vous mentez souvent, alors? Je vous ai demandé en début d'émission.
Non,
mais
franchement...
En vrai, petits mensonges comme ça de...
Oui, ça m'arrive de mentir, si j'arrive en retard à un rendez-vous, je vais dire, oh, tellement, mais vraiment, le truc classique, comme tout le monde, tous les Français le font, il y avait des embouteillages, il y a eu un accident, alors que je suis parti trop tard. Bon, voilà, c'est pas méchant.
Vous annulez, vous plantez. C'est quoi votre excuse phare?
Alors, il faut savoir que, pour en parler avec Kat, quand vous le verrez, j'ai été en retard pendant 10 ans, vraiment régulièrement, des gros retards, hein, des retards d'1 heure, 1 heure et 15 minutes. Et un jour, Kat m'a coincé, on travaillait ensemble, il m'a dit, écoute, c'est vraiment plus possible. Donc, il va falloir que tu changes. Et depuis ce jour, j'ai vraiment changé. Et maintenant, je suis systématiquement à l'heure. Il m'a fallu une leçon, en fait.
Il y a des choses très drôles dans le film, hein. C'est avant tout une comédie, on le disait, menteur, oui. C'est aussi un peu c'est romantique, il y a du drame, il y a même de l'horreur, hein. Il y a une scène, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Vous voyez de quoi je parle?
Oui, bien sûr, c'est parmi les mensonges, je ne vais pas spoiler, hein. Bon, on peut spoiler celui-là, parmi les mensonges, il a raconté, Jérôme Berada, Tarek Boudali, a raconté que le voisin de leurs parents était un serial killer. Donc à un moment donné, effectivement, quand la malédiction a eu lieu, le voisin devient un vrai serial killer, et là on s'est amusé à faire un peu une parodie de genre. De tueur en série avec une poursuite horrible dans la maison. C'était un vrai bonheur de faire ça avec Philippe Bieu.
Ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi, ouais, c'est un vrai cadeau de mise en scène, ce film. Parce que ça surfe entre tous les genres. Il y a du mystique, il y a de la comédie, il y a de la romance, il y a de l'horreur.
c'est plusieurs vagues d'émotions qui se succèdent comme ça, avec des styles un peu différents. On s'est vraiment amusé à faire ça.
Et vous faites une apparition?
Oui, alors vraiment, parce que toute l'équipe m'a demandé. Voilà, j'ai dit ok, d'accord, je vais faire le journaliste de chaîne info. On continue à la fin du film, vraiment dans un téléphone, donc c'est très bien.
Vous n'êtes jamais posé la question de jouer le rôle principal, de jouer le menteur?
Non, certainement pas. Non, Tarek l'a fait beaucoup mieux que moi. Et puis moi, je ne peux pas jouer et réaliser en même temps. Je n'ai pas cette capacité intellectuelle.
Vous l'avez, mais c'est beaucoup de...
Non, franchement, je crois que je ne l'ai pas. Non, je crois que je ne l'ai pas. Je l'ai fait une fois avec Cal. On était deux pour faire Pamela Rose 2. C'était tellement fatigant, tellement compliqué. Je pense qu'on rate des choses, en fait.
Et pourquoi Tarek Boudali?
Parce que Tarek, je l'avais rencontré il y a 10 ans. C'était un jeune acteur. Il avait joué le frère de Kat dans L'Italien. Et je ne l'avais pas oublié, en fait. Et je l'ai rappelé. Parmi la liste des acteurs qu'il y avait potentiellement pour le rôle, je me suis dit, mais Tarek, il a cette aura, il est solaire. Il y a un truc, il est classe. Et je le vois bien en menteur. Donc voilà, c'était aussi simple que ça.
Bon, est-ce que vous êtes bien concentré?
Oui.
Je vous ai préparé quelque chose spécialement pour vous. Un questionnaire menteur, forcément en rapport avec le film, mais un questionnaire menteur dans la peau du personnage de Tarek, c'est-à-dire que vous devez me mentir. Je vous pose une question, vous mentez.
D'accord, ça marche.
Voilà,
pas de problème.
Quel sera le thème du prochain Tuche?
Le thème du prochain Tuche, ça va se dérouler en Auvergne. Et les Tuches, en fait, par un accident, une circonstance un peu particulière, vont réveiller l'un des volcans d'Auvergne et ça va provoquer une situation dramatique en France.
Olivier Barou, est-ce que vous...
drogue,
je rappelle que nous
merde.
Sommes dans un questionnaire mensonge pour les personnes qui viennent d'arriver.
Ah bah tu peux être sûr.
Quoique. Olivier Barou, est-ce que vous aimez travailler avec Kad Merad?
Non, ça fait bien longtemps que je déteste qu'on ne travaille plus ensemble déjà et que je déteste travailler avec lui parce que bon, il est toujours en retard, il n'apprend pas ses textes. Et puis c'est une diva, donc il est obligé d'avoir une trentaine de personnes autour de lui. Ses assistants, ses maquilleurs, son cuisinier personnel, pour moi c'est plus possible. Donc je préfère travailler avec une nouvelle génération de gens beaucoup plus sympathiques.
Comme Tarek Boudali. Dans Banter.
Bien sûr.
Est-ce que vous aimeriez dîner avec le pape?
Alors je mens, hein. Je mens, alors non. Non. Non.
Mais aucun intérêt.
Aucun intérêt. Mais non, j'aimerais pas. Mais en même temps, si je mens, ça veut dire que j'aimerais bien. Si, alors, si je fais une parenthèse, j'aimerais vraiment dîner avec le pape.
Mais oui, vous l'avez dit dans une interview.
Ah, j'aurais des choses à lui dire.
Vous avez envoyé des lettres aux nuls que vous adoriez.
Oui, c'est vrai, oui. Mmh. J'ai envoyé pendant une année un sketch par semaine aux nuls.
Mais là, on est dans le...
Alors, c'est pas vrai, c'est faux, pardon. Je n'ai jamais envoyé de lettres aux nuls. Je n'ai jamais eu au téléphone Chantal Lobby lorsque j'étais tout jeune et encore animateur de radio en province. Et je n'ai jamais eu Chantal qui m'a dit « continue comme ça
». C'est à vous de décrypter, hein. C'est un exercice intellectuel que je vous demande aujourd'hui. Vous ne regardez pas beaucoup de comédies?
Je regarde énormément de comédies. Toutes les comédies françaises qui passent au cinéma, à la télévision, je les regarde assidûment. Je les regarde 3-4 fois d'affilée. Je ne peux pas m'empêcher de regarder des comédies.
Et pourquoi vous en regardez autant?
Parce que j'adore regarder les comédies, voilà, principalement les comédies françaises. Et ça m'influence et je vole les idées et j'en fais des films après.
Bon, donc parenthèse, vous avez déclaré que vous regardez peu de comédies.
Françaises, ouais. Ouais, de peur de me laisser influencer, de voler inconsciemment.
De copier sans vous en rendre compte,
c'est vrai. Ouais. Donc je regarde les comédies américaines, je ne vole personne, mais j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Il y a beaucoup de comédies françaises. Hein, et donc, inconsciemment, quand vous écrivez, vous vous dites, ah, c'est génial ça. Et puis, puis finalement, vous l'avez peut-être volé. Hein. C'est comme, je fais une parenthèse très courte, mais c'est Mick Jagger, à l'époque où il voulait faire un titre un peu disco, il arrivait au studio avec les Stones et il dit « Écoutez ça, les gars, ça serait bien qu'on fasse ça. » Et Mickey Pritchard lui disait « Non, mais ça, c'est un titre de Donna Summer, arrête. » Inconsciemment.
Ouais, et
tout ce qu'il entendait en boîte, il voulait le faire. Et ben moi, inconsciemment, tout ce que je vois dans les comédies françaises, peut-être que je pourrais le refaire et je n'ai pas envie.
Olivier Barrou, dans notre questionnaire « Mensonge », quelle est votre principale qualité?
Ma principale qualité, oh là là, attends, il faut que j'inverse tout là.
Ça rend fou.
Ma principale qualité, c'est peut-être que je suis très sérieux.
Voilà. Ça va.
Ouais, ça va.
Vous reviendrez nous voir dans Clap?
Bien sûr, bah oui.
Ça fait ça, bah c'est oui. Dans le questionnaire menteur.
Ah, excuse-moi.
Parce que là, je me suis dit, c'est vraiment pas cool.
Excuse-moi, dans Clap. Ah non, Clap, bah justement, jamais de la vie, non, c'est trop nul. Aucun intérêt. Non, je viendrai pas. Je viendrai jamais.
Merci beaucoup Olivier Barrou, vous restez à mes côtés. On va parler non pas des films de votre vie puisque vous êtes déjà venu cette saison, mais des films de votre été.
Yeah.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour la suite de Clap, toujours en compagnie d'Olivier Barrou. Olivier, vous aviez participé à notre questionnaire, donc je le rappelle, on ne va pas vous redemander les films de votre vie. A priori, les réponses seront les mêmes. Donc, je vous ai préparé un petit questionnaire qui sent bon l'été. Et alors justement, si je demande le film qui sent bon l'été pour vous.
Le film qui sent bon l'été, bah, je pense que ça va être Menteur. C'est celui-là qui sent bon l'été.
Ouais,
j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je ressens de la tournée province dans laquelle on est en ce moment avec Tarek, je me dis que ça peut faire partie des comédies de l'été pour que les gens retournent au cinéma, tout simplement.
Donc je rappelle que le film sort le 13 juillet.
13 juillet, au même titre que le film de Jérôme Commandeur, Irréductible. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne cuvée cet été-là. Ça serait bien que ça se passe bien, que ça soit cool pour tout le monde.
Écoutez, on croise les doigts. En tout cas, nous, on fait tout pour ici.
C'est vrai. Merci.
Thibaut, j'ai failli me faire interner. Mais là, toi aussi, tu te rends compte aussi. C'est pas normal tout ça.
Ben oui, moi aussi, je suis conscient. C'est ce que j'essaie de t'expliquer hier toute la journée, sauf que tu m'écoutes pas.
Mais tu vois, c'est horrible ce qui nous arrive depuis hier. Mais je crois que j'ai un début d'explication. Je crois. Je dis bien je crois.
Continue.
Non, laisse tomber, c'est pas possible.
Jérôme, s'il te plaît.
Je crois que j'ai raconté un petit peu trop de...
De mensonges.
Chut.
Voilà, c'est ça. Et là, t'as raconté le mensonge de trop. T'as dit à tout le monde que j'étais un loser. Résultat des courses, je suis un loser.
Et vous aviez répondu Everest aussi.
Oui, bon. Everest que j'adore. C'est une chose qui est vraie, c'est que l'été, quand je regarde un film...
Pour se rafraîchir un peu.
Ouais, j'adore les films où il y a de la neige, de la glace. Je ne veux pas forcément regarder des films de plage, parce qu'on a la plage qui n'est pas loin. Donc, j'aime bien les films rafraîchissants et les films d'action. Oui. J'adore quand ça
donc
se déroule
là,
en montagne.
Bon, l'ascension de l'Everest en pleine tempête,
ouais.
Par moins 45 degrés.
Ouais, ouais. Là, vous vous dites, ah, moi je suis bien là. Sous
avec Jack Gyllenhaal et Jason Clark.
Ouais,
il est génial ce film. L'adrénaline.
Une tuerie.
Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous ne seriez pas ici. Mais l'Everest, c'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise.
Olivier Barrou, un titre de film pour décrire votre été de rêve.
Alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est Calme Blanc,
oui.
Un film australien.
Un thriller.
Un thriller australien, mais en fait c'est Calme Blanc, mais sans les ennuis. C'est-à-dire la croisière.
Sans le scénario, alors.
Sans le scénario, sans le serial killer, sans tout ce
qui est décédé début de film.
Non, mais c'est aussi une manière de dire, pour tous ceux qui n'ont pas vu ce film, jetez-vous dessus.
Il est génial.
Très, très, très grand film et un très grand thriller.
Et c'est vrai que, si on enlève tout ça, c'est un couple qui part sur son voilier. Voilà.
Et c'est tellement bien filmé qu'on a envie d'être sur le bateau, et on a envie de rester, et c'est cool. Ce film est trop fort.
Un titre de film pour nous parler de votre destination préférée.
Alors, j'ai mis Mad Max, le 1, le 2 ou même le dernier, qui est tournée en Australie, parce que j'ai découvert l'Australie il y a 2 ans et j'ai très envie d'y retourner. Ça m'a complètement retourné, secoué. J'ai adoré ce pays.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez aimé ?
La taille, la grandeur de ce immense. Pays immense, la gentillesse des gens et le fait aussi que il y a beaucoup d'Australiens en fait qui ne connaissent pas leur pays tellement c'est grand en fait. J'ai discuté avec des Australiens qui me disaient « Ah, vous avez été à Perth ? Mais nous jamais. Et vous avez été à Adélaïde ? Nous jamais. Vous avez fait Ayer Rocks ? Nous jamais. Ils bougent pas, ils restent dans leur coin. » Et c'est un pays qui est voilà, qui est magnifique, qui est magnifique.
Il ne faut pas avoir peur des bestioles.
Non, c'est pas vrai. Non, il faut faire attention où on va. Oui, quand on va dans le centre vers Ayer Rocks, mais autrement, non, c'est pas. Tout est bien fait pour vous prévenir là où sont les dangers, donc il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous connaissez le titre de Mad Max au Québec, pour sa sortie québécoise ?
Non, j'ai aucune idée, c'est quoi ?
Bolide hurlant.
Bolide hurlant.
Il y a de l'idée, hein ?
Bolide hurlant. Manquez pas Bolide hurlant au cinéma, toute l'étoile.
Bah ouais, mais c'est parce qu'ils francisent tout, mais pourquoi pas, ils ont raison, ils défendent la langue française. J'imagine des titres français comme ça.
Hé, hey, Max.
J'écoute.
Hors
course. Y'a rien de cassé chez toi ?
Je devrais aller voir les dégâts, flico.
Bagnole en morceaux.
Flic en morceaux, tu m'entends, flico ?
Je suis l'aigle de la route !
Oui, c'est la version française.
Oui, VF, bon, ça dépend. Il y a des bonnes
et
VF.
En VO, c'est Mel Gibson.
Bah oui.
Alors, le film qui vous rappelle votre plus bel été ?
Alors, j'ai écrit aucune idée.
Oui. Parce que je me suis dit que peut-être
aucune,
depuis.
Aucune. Mais non, votre plus bel été, j'en ai eu tellement des beaux étés. Alors, donc j'ai... Mais non, franchement. Alors
c'est quoi un bel été pour vous ? Un été réussi ?
Un été réussi, c'est. Alors, c'est tellement classique, c'est juste être avec des potes et ma famille et un petit bateau et un peu de mer. Et voilà, et on sort, on pêche et on dîne et on se repose et on lit. Voilà, c'est d'un classicisme, vous ne pouvez pas imaginer, quoi.
Non, mais c'est bien, en même temps, c'est la vie. Alors, le film que vous aimez voir l'été, ça pourrait être le film de la plus belle été.
Ouais, c'est ça. Ça fait partie de mes films références que j'adore. Vous savez, dans une, qu'on soit spectateur ou d'ailleurs réalisateur, il y a toujours des films références que vous pouvez voir plusieurs fois. Et il fait partie de cette liste, Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sauté. C'est un film que je peux revoir une fois, voire deux fois dans l'année, parce que c'est une leçon à chaque fois pour moi. Je le prends comme une leçon de cinéma, une leçon de jeu, direction d'acteur. Et même en dehors de ça, comme spectateur, je kiffe à chaque fois. C'est très nostalgique comme film.
Alors bah, oui, c'est ça, vous avez raison de parler de nostalgie, parce que Michel Piccoli, Yves Montand, Gérard Depardieu, Serge Reggiani, j'en oublie, Marie Dubois, Stéphane Audran.
Oui.
Voilà, c'est...
Gérard Depardieu, ouais, tu l'as cité.
Gérard Depardieu. Ouais.
Non, mais voilà, il y avait une simplicité, mais en même temps une précision, quelque chose de d'imbattable. C'est un maître. Enfin, pour plein de gens, c'est un maître, hein, Claude Sauté.
Oh yes.
Ah, ben manquait plus que cela.
Hé, hey, Vincent ! Tu as vu qui est là ?
Ça, faut demander à Paul.
Oui, que tu fais.
Hey,
Hermès, c'est deux cons. Tu pourrais peut-être faire une petite mayonnaise.
Écoute, François.
Ta gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde !
Elle est bien bonne, celle-là.
Le film que vous conseillez pour une projection en plein air ?
La plage. Non, tout simplement. Une sorte d'effet miroir.
Surtout si on n'a pas la chance d'être en vacances.
Ouais. Non, et si, voilà, une projection en plein air au bord d'une plage, de la plage, ça a dû être fait des millions de fois, mais j'ai aussi beaucoup aimé ce film.
Bah, Grease, et... ça marche aussi, hein,
ouais,
en bord de mer.
C'est vrai.
Mais la plage, alors, on rappelle, hein, Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet, Virginie Ledoyen, ouais. Film de Danny Boyle.
Danny Boyle, ouais, grand cinéaste.
Et c'était très sympa la plage.
Ah ouais, c'était bien.
Ça fait longtemps, j'aimerais bien le revoir.
Comment on descend ? C'est à moi que tu poses la question, comme si c'était à moi de tout décider.
Il faut qu'on plonge.
Mais c'est toi qui as voulu passer devant, putain !
Je suis passé devant, mec, parce que de toute évidence, t'étais pas en état de le faire.
Ah ouais ? Et regarde où ça nous a menés !
Moi, je dis qu'on peut sauter.
Arrête de dire n'importe quoi ! Françoise ! Ah ! Françoise !
Venez, c'est bon, sautez !
Bon, alors on y va ?
Oh, putain.
La musique que vous écoutez en vacances, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique en vacances ?
Ouais, beaucoup. Dans la voiture, à la maison, partout. En ce moment, je suis très fan de Sofiane Pamart, que j'ai eu la chance de voir aussi en concert. J'adore ce mec, j'adore ce qu'il compose. Voilà, c'est magnifique.
La playlist de votre été idéal, il y aurait quoi dedans ? Sofiane Pamart.
Il y aurait du Sofiane Pamart, il y aurait certainement du Hans Zimmer. Parce que je suis très fan de ce qu'il fait. Et après, il y aurait du Armanet aussi. Voilà, il y aurait de la musique classique, il y aurait du Mozart, il y aurait du Earth, Wind & Fire, il y aurait du AC/DC, du Motorhead. Non, il y a plein éclectique. Et voilà, non, j'aime bien un peu toutes les musiques. Celle-là en particulier, mon Dieu.
Eh bien, vous savez quoi, on va se dire au revoir sur cette musique. Je rappelle donc que Menteur sera au cinéma le 13 juillet. Merci beaucoup Olivier Barraud d'être venu parmi nous. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et nous, surtout, ne bougez pas, on se retrouve pour vous parler de l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, on va maintenant parler des sorties cinéma. Alors cette semaine, vous avez rendez-vous aux quatre coins du monde avec le plus irréductible des fonctionnaires. Avant de mettre le cap sur la Corée pour enquêter sur un meurtre, enfin on se remettra en selle pour le Tour de France 98. Autour de moi, Franck Vallière qui est là depuis le début de cette émission, qui a vu pratiquement tous les films puisque Victor Bonnefoy est souffrant, mais... on récupère Didier Allouche, qui est exceptionnellement en France cette semaine. Et on commence notre tour d'horizon avec une comédie pleine de péripéties et d'aventures, d'amour aussi. C'est Irréductible de Jérôme Commandeur qu'on avait reçu la semaine dernière dans l'émission. Alors je vous rappelle l'histoire, c'est celle d'un fonctionnaire, Vincent Pelletier, qui veut absolument continuer à faire son job qu'il aime tant et qui refuse de démissionner. Il va donc être muté aux quatre coins du monde. Alors un casting de folie, Valérie Le Mercier, Gérard Darmon, Pascal Arbillot, Christian Clavier, Laetitia Doche, et même Gérard Depardieu pour ce film absolument hilarant.
Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout.
Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt.
Tiens bon Vincent, tiens bon.
On voit où cette fois-ci?
Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants.
C'est pas faux, mais c'est une... toute petite partie des Blancs, hein, qu'on appelle les Parisiens.
Franck Vallière.
Écoutez, c'est splendide cette comédie en fait, parce que bien souvent ça, c'est un peu à plat et on voit pas forcément l'argent, c'est champ contre champ, vanne, un ventre mou et on remonte. Et là, franchement, ça part au galop ce film. Ça s'apaise un petit moment parce que c'est effectivement difficile de trouver 1h40 pour tenir à ce rythme-là, mais c'est beau, on voyage de par le monde entier. Ça fait penser un peu à la vie rêvée de Walter Mitty par exemple.
Oui, parce qu'on va au Groenland, on va un peu partout.
Voilà. Après, sur le casting, vous n'avez pas dit, Laurie, que Valérie Le Mercier fait un caméo aussi par exemple.
Si, jamais je l'ai cité.
Ah bon? Ah, je l'ai pas entendu dans la. C'est vrai qu'il y a un nombre de caméos incroyables.
Des seconds rôles absolument dingues.
De mon point de vue, je pense que Jérôme Commandeur va se prendre un contrôle fiscal sous les 2 ans. Même si évidemment il s'agit d'humour. Il faut savoir quand même qu'à la base, c'est un grand succès italien. Un film qui a réuni 10 millions de personnes d'Italiens en salle. Et 10 millions d'Italiens en salle, c'est beaucoup d'Italiens en salle.
Ça s'appelait Covado.
Voilà. Et le mec a réitéré l'exploit sur son second long métrage avec, je crois, 8 millions et demi d'entrées. Donc c'est une adaptation. Et il faut considérer qu'en Italie, c'était beaucoup plus sur le communisme. Très ancré depuis le siècle passé, etc. Donc, Jérôme Commandeur a
complètement adapté à la mentalité française.
Voilà, et donc à l'administration, au fisc. Et accessoirement, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce film, c'est que certains acteurs font leur propre cascade. Ainsi, Christian Clavier fait une cascade phénoménale, la plus grande de sa carrière, puisqu'il joue un syndicaliste de gauche. Et ça,
oui, c'est vrai,
wow,
avec un look absolument dingue, la petite boucle d'oreille, comme le dit Jérôme Commandeur de Bernard Levillier, c'est franchement, si vous ne pouvez pas manquer ça au cinéma.
Voilà, rien voilà. Pour ça, ça vaut le coup.
Et Gérard Depardieu annonce son retour en France.
Ah bah ça, mais c'est marrant parce que tout ce que Depardieu dit, il l'a dit de manière différente. Et on
oui,
sent
et
que...
ça a été tourné exprès pour le film, hein. Ce ne sont pas des images d'archives. On va écouter vos réactions à la sortie des cinémas.
C'était très bien, drôle, ça changeait un peu. Jérôme Commandeur, en tant qu'acteur, il est bien, une bonne réalisation. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire après.
Ah oui, j'ai bien aimé, c'est un peu une aventure, j'étais fonctionnaire, donc je sais ce que c'est.
Moi j'ai vraiment bien aimé, et puis de voir aussi Gérard Depardieu, Christian Clavier, ça fait toujours plaisir à voir au grand écran.
J'ai bien kiffé l'histoire est très très belle. Franchement c'est un super film. C'est assez drôle et puis on voit plein de paysages et tout ça.
C'est humoristique, en même temps c'est très émouvant justement parce qu'il y a plein de clichés, de petits clins d'œil, de choses auxquelles on ne pense pas et puis un beau film.
On parle aussi cette semaine de La Traversée, film de Varant Soudian, l'histoire d'une bande de 5 jeunes déscolarisés qui ont quelques problèmes, qui partent faire une traversée de la Méditerranée organisée par leur éducateur. Ça les amène de Marseille jusqu'au Maroc, c'est un véritable voyage qui doit leur apprendre les valeurs de la mer. Pour parler de ce film, Lucien Jean-Baptiste est avec nous par téléphone. Bonjour Lucien.
Bonjour, bonjour Europe 1.
Alors dans La Traversée, vous jouez un animateur, c'est un peu le référent de ces jeunes défavorisés qui va se plier en 4 pour que La Traversée se passe bien. C'est comme un père de famille finalement, le temps d'un voyage.
Ouais, un père de famille, un grand frère, oui c'est un éducateur. Alors moi je suis l'éducateur un petit peu... usé, je pourrais dire. Il y a une comédienne avec nous qui s'appelle Audrey Pirot, qui est formidable. Elle est beaucoup plus motivée que moi. Parce que moi, bon, je représente un peu ces éducateurs. Et là, on est très sérieux, qui sont un petit peu fatigués parce qu'aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de faire ce métier. Ça manque de moyens, etc.
Oui,
etc.
Il a ses illusions.
Voilà. Donc, heureusement, il est bien accompagné. Et c'est ce qui donne une part de comédie au film.
Et vous avez tourné le film en plein été, dans la baie de Marseille. C'était un beau cadre de tournage. Ça s'est passé comment ?
C'était magnifique. Alors, et difficile. Alors, le réalisateur Varon Tsoudjian vous dira qu'il a vécu un cauchemar. Et c'est vrai que...
Pour le tournage en mer ?
Oui, tournage en mer, c'est terrible. Vous savez, parce que le cinéma, normalement, on doit tout contrôler. Et on ne contrôle pas le vent et on ne contrôle pas les vagues. Donc, ça a donné des situations terribles d'attente, etc. C'était très difficile parce que le bateau vivait sa propre existence. Donc, on n'avait pas toujours le soleil au bon endroit. Et puis, un bateau, c'est exigu. Voilà, et on était 18 personnes. C'était la quantité maximum de gens qui pouvaient être sur le bateau. Donc, il fallait choisir quand on partait le matin entre une maquilleuse, un déco, etc. Et puis, on était là un petit peu les uns sur les autres. Et en même temps, j'aime bien parler de ça parce que c'est ça le film. Hein. C'est comment trouver sa place. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, la métaphore est belle. Mmh. On est tous sur le même bateau. Et on part faire cette aventure, cette croisière et ce voyage sur la Méditerranée pour essayer de réinsérer ces jeunes. Et le skipper, on tombe sur Alban Ivanov, qui est un ancien flic de là-bas, qui ne veut plus entendre parler des jeunes en difficulté, tout ça. Et donc forcément... cohabitation difficile, donc situation de comédie, mais aussi situation où on parle effectivement de vrais problèmes de société.
Regarde comment il nous parle comme un déhanche.
C'est pas très grand, mais vous verrez, hein, je serai pas dépaysé de la garde à vue.
On va pas tomber dans son piège, c'est notre traversée, ok? Mais ça va pas ou quoi?
Non mais là, ça, c'est la merde là.
Mon bateau c'est pas un HLM, tout ce qui traîne, fringues ou autre, ça finit par-dessus bord.
Il y aura des dauphins.
Si tu veux avoir des dauphins, t'as qu'à aller au parc aquatique.
Tu me parles pas comme ça.
Oh, elle est tarée.
Cette traversée, c'est un peu une seconde chance qu'on donne à ces jeunes. C'est ça aussi ce qui vous a touché dans le scénario?
Oui, c'est ce qui m'a touché, mais ce qui m'a aussi surtout touché, c'est vous dire, on prend ces ingrédients. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est une confrontation. Hein, ce n'est pas que un film sur les jeunes à réinsérer. C'est une confrontation, c'est un débat. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons ce flic usé que normalement on devrait voir dans un commissariat avec plein de problèmes. Et, voilà. Et puis on devrait être de l'autre côté, voir les jeunes en bas d'une cité. Voilà, vous avez des ingrédients qu'on a retrouvés très justement, sublimement faits dans Bac Nord ou Les Misérables. Mais là, on a pris ces ingrédients et on les a mis au milieu de la Méditerranée sur un bateau et il faut que, pour que le bateau avance, comme une espèce d'allégorie, de métaphore du monde, de notre société, il faut qu'ensemble, on arrive à discuter. Et ce film, il n'y a pas de miracle à la fin de ce film. Il n'y a pas d'enfants qui deviennent des génies ou quoi que ce soit. C'est simplement une base. Et c'est très beau. Ce film va faire débat. Et ces jeunes, enfin, ont réussi à s'exprimer. Et ce policier, cet ancien policier, aussi arrive à s'exprimer. Donc, c'est ce qui fait tout le charme, toute la beauté de ce film. C'est l'échange qu'il y a entre deux groupes, on pourrait même dire deux communautés qui ont des problèmes de communication. Et quand on sort de ce film, on se dit, tiens, peut-être que mon jugement, ma vision de ces jeunes, ou ma vision même de la police, on peut le dire, aura changé, évolué. C'est une très bonne base de réflexion.
Merci beaucoup Lucien Jean-Baptiste. Je rappelle donc que La Traversée est en salle depuis mercredi et qu'il faut absolument aller le voir. Et Franck, vous vouliez nous parler de L'Équipier, un film qui revient sur le Tour de France 1998. Et ça tombe bien puisque la grande boucle a commencé hier.
Eh ben
c'est
oui.
Parfaitement d'actualité.
Absolument. Mais attention, il faut bien préciser que...
C'est un drame.
Alors, on va faire très simple, on va dire que c'est Trainspotting dans le milieu de la course cycliste. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même expliquer deux, trois choses. Parce que moi, sur le papier, le Tour de France, c'est bien mignon, mais je m'endors entre le premier et le troisième virage de la montée de l'Alpe d'Huez. Et j'ai appris un nombre de choses incroyables.
Là, en même temps, ça grimpe.
Hein. Oui.
C'est... Pour aller à l'Alpe d'Huez.
J'ai appris un nombre de choses incroyables dans ce film et c'est traité sur le ton du thriller. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un domestique? Je ne l'ignorais. Le domestique, c'est quelqu'un qui protège du vent le sprinter pendant toute la course et qui doit se sacrifier à la dernière minute pour que le sprinter remporte la course. Il y a des gens dont c'est le métier d'être
Mais vous voyez que vous êtes passionné.
De possiblement pouvoir gagner, mais qui se rétracte à la dernière minute au profit du winner de l'équipe. Et ça place déjà le contexte de cet homme-là, dont on va suivre le parcours dans le film, qui est donc le mec qui pourrait tout le temps gagner, mais qui finalement s'efface au profit d'un autre, qui est en fin de carrière, on ne renouvelle pas son contrat, sauf que le jour J, il y a une défection et le mec doit repartir en selle alors que la veille, il a bu du vin. Ça a l'air de rien, mais ce film est vraiment exceptionnel, même si vous n'avez pas, comme moi d'ailleurs, du tout l'habitude d'être fan de vélo.
On peut aimer même si on ne s'intéresse pas au cyclisme.
Voilà. Et en fait, on va partir...
Ça, c'est bien de le préciser.
Dans le Tour de France 1998, et plonger au cœur.
Donc on est en immersion du Tour de France.
Oui, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Quand je vous dis c'est Trainspotting dans le milieu du cyclisme, c'est-à-dire que ça, c'est un film qui avant tout parle de l'addiction au sport, de l'addiction à la win, de l'addiction, alors en l'occurrence à l'EPO, aux stéroïdes, puisque donc au moins à cette époque-là et sans doute même encore un peu toujours, ils étaient tous au taquet. Ce sont des bêtes de course. Ils sont dopés et ça ne parle que de ça. C'est un climax croissant et lent. Le réalisateur a eu la justesse d'esprit de bosser un peu comme Danny Boyle, c'est-à-dire de rajouter de la techno aux 122 BPM pendant les périodes de course pour dynamiser un peu l'ambiance. Le reste du temps, on est avec eux dans des pioles toutes pourries, en train d'envisager le lendemain comme un jour de gloire. Et en fait, c'est comme le cinéma. Le cinéma, on va voir un film, mais en fait, la course cycliste, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Le film nous plonge dans les coulisses. Et ces coulisses-là, en 90, étaient exceptionnellement, c'est très joliment réalisé, c'est passionnant de bout en bout. J'ai adoré ce film.
Bah, ça, écoutez, ça s'entend, ça se sent. Et c'est vrai que le film donc, se focalise sur l'année du gros scandale du dopage.
Voilà, voilà. C'est pour ça que, sûrement, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé
pas
ce film.
Mais moi, je le dis.
Oui, oui, on peut le dire.
Bon, on écoute les réactions.
Ah, bah oui.
C'est un très bon film. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien sur le monde du cyclisme. La drogue, les équipiers, toutes les magouilles qu'il peut y avoir.
C'est un très bon film. J'ai un peu découvert le monde du cyclisme, ce que je ne connaissais pas, donc j'ai trouvé ça très très intéressant. J'étais un peu ému de voir ça, donc peut-être que je vais m'intéresser un peu plus maintenant.
On parle maintenant de Decision to Live, prix de la mise en scène à Cannes cette année, réalisé par le coréen Park Chan-wook. Didier Allou, je crois que vous avez beaucoup aimé.
J'ai surtout beaucoup aimé la réalisation du film. Vous l'avez rappelé, Laurie, Park Chan-wook a gagné le prix de la mise en scène à Cannes et c'est exactement le prix qu'il aurait dû gagner. C'est parfait là-dessus, l'histoire elle est très simple, puisque c'est une sorte de remake de Vertigo, si vous voulez. Tout le monde a vu Vertigo, tout le monde sait de quoi ça parle.
Thriller amoureux.
Ah, voilà, on en est là et c'est un enquêteur qui enquête sur un crime plus ou moins élucidé, et puis plusieurs années plus tard, il retrouve l'une des personnages de cette enquête-là, et il va y avoir une autre histoire de tentative de meurtre. Je ne vous en dis pas plus. Vraiment, ce qui vaut, c'est la mise en scène. Park Chan-wook est un des plus grands metteurs en scène au monde. Il le prouve encore par cet exercice de style, tout en élégance, en délicatesse, avec des moments de cinéma extrêmement forts.
On écoute vos réactions.
J'ai beaucoup aimé, donc j'ai trouvé ça très joli. Je trouvais qu'il y avait vachement de variations dans l'histoire. Bah, beaucoup de retournements de situation surtout. Je voyais rien venir.
Très, très bien. Bah, la mise en scène est vraiment parfaite.
J'aime bien les films coréens, enfin, asiatiques en général. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, les effets de style, et puis c'est une magnifique histoire d'amour.
Bien aimé, même si j'ai trouvé que les transitions qu'ils faisaient sortaient un peu du film. Je trouvais ça un peu artificiel, mais sinon c'était pas mal.
Et vous savez quoi, c'est la fête du cinéma ce week-end, donc profitez-en, allez voir des films que vous n'auriez peut-être pas vus en temps normal. Droguez-vous au cinéma, c'est une bonne drogue, je crois que c'est la seule d'ailleurs qui est autorisée. Franck et Didier, si vous deviez conseiller un film
oh ben
à
moi,
voir.
Si je veux dire d'aller voir un film à Didier qui est peu souvent par chez nous, est-ce que tu as vu le Michael Hirst?
Non, pas du tout, c'est bien.
C'était absolument génial. Un hommage à Claude Sauté dans les années 80 avec Charlotte Gainsbourg et la vie d'une femme qui pourrait être une petite nièce de Rosalie, de César et Rosalie. Et c'est très sensible, très joli portrait. Et le film est un peu en bout de course, ça fait quelques semaines quand même qu'il est sorti.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'au moins
il est encore à l'affiche. Didier, il faut aller voir ce film. Vraiment, c'est un film super.
Ben, c'est promis, j'irai.
Mais maintenant, c'est vrai qu'on a en studio le seul mec qui a passé plus de 10 minutes avec Tom Cruise sur la Terre, hein, quand même. Je crois que t'es le seul, Didier.
Ben voilà, pendant la fête.
Vous nous rappelez le titre du film, Franck ?
Le titre, c'est Les Passagers de la Nuit, de Michael Hirst.
C'est noté. Et puis, il y a encore Buzz l'éclair, Jurassic Park, Top Gun. Enfin, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, Irréductible. Enfin, on vient de vous parler de pas mal de films. C'est la fête du cinéma. Donc, à partir de demain, du 3 au 6 juillet, la séance est au prix unique de 4€ dans tous les cinémas de France. Alors que vous soyez dans une grande ville, dans un petit village, dans une petite ville, foncez au cinéma. Et à cette occasion, le club auditeur d'Europe 1 vous fait gagner 2 places de cinéma par mois pendant 1 an. N'hésitez pas à vous rendre sur le site club1.europe1.fr pour participer. On n'a pas demandé à Didier son conseil sur les films qui sont en salle, mais moi en même temps, vous habitez à Los Angeles.
Allez revoir Top Gun, 4€ pour Top Gun, c'est le bonheur.
Est-ce que tu es resté plus de temps avec Tom Cruise que Top Gun 2 durant en réalité de 2h37, je crois, c'est ça ?
Non, mais pas du tout.
On a quand même dans ce
mais
studio.
Il a présenté la masterclass de Tom Cruise à Cannes. Bref, c'est une autre histoire. C'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux. Merci Didier, c'est toujours un plaisir. Tu reprends l'avion quand tu veux pour venir nous voir. Je vous rappelle qu'Olivier Barou était mon invité pour parler de son film Menteur au cinéma la semaine prochaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour nos émissions de l'été. Notez bien notre nouvel horaire. Ce sera tous les samedis à partir de 10h sur Europe 1. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.